Juste, on va revenir sur un mot. C'est dommage que Daniel soit pas là, il nous l'aurait expliqué. L'hydropisie.
Ah oui.
Verset 2. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropisie. Et donc, l'hydropisie, c'est une maladie qui cause des œdèmes de manière généralisée. Et on sait qu'il y a, on peut en mourir, en fait. Donc, c'est considéré comme quelque chose de grave. Et dans l'histoire, il y a quelques personnalités qui en sont mortes. L'empereur Adrien, par exemple, saint Thomas d'Aquin. Et pour aller dans un autre domaine, on a eu un empereur romain, on a un théologien, on va avoir aussi une plume littéraire, Miguel Cervantes. Donc voilà. Et puis différentes époques. Donc voilà à peu près de quoi il s'agit. Alors si on part sur les premiers versets, les versets 1 à 6. Normalement, cette histoire de guérison publique un jour de sabbat, alors que c'est formellement interdit, c'est quelque chose qui doit vous parler, parce qu'on en a déjà vu. On l'a vu au chapitre 6, versets 6 à 11, avec l'homme qui avait la main desséchée. On l'a vu au chapitre 13, la semaine dernière, versets 10 à 17, avec la femme qui est possédée. Et après que Jésus ait révélé la dynamique créatrice et salvifique du sabbat, il a aussi souligné que, ça c'était au chapitre 13, que une personne, un éleveur, qui va abreuver sa bête le jour du sabbat, personne ne considère qu'il commet un crime. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas bénir, soigner quelqu'un? Ici, Jésus poursuit son explication, il est toujours dans la même ligne d'esprit, et il va s'appuyer donc sur les deux arguments précédents, la dynamique créatrice et salvifique du sabbat, et le fait que ce n'est pas un crime de faire boire sa bête le jour du sabbat. Ici, c'est la même chose. Personne ne voit le mal, en fait, à ce qu'il y ait une bête qui soit sauvée le jour du sabbat, puisque personne ne trouve rien à lui répondre. Donc, laisser noyer sa bête, ce serait perdre son moyen de subsistance. Donc, il y a un intérêt à sauver sa bête. Et donc, c'est cet intérêt qui permet que finalement, personne ne va rien dire. Donc, l'idée de Jésus, c'est de dire que de la même manière, Dieu ne veut perdre aucun de ses enfants. Donc, il peut les sauver aussi le jour du sabbat. La grande différence, c'est que si l'animal était un moyen de subsistance pour l'homme, l'homme, en revanche, n'est pas un moyen de subsistance pour Dieu. Mais Dieu le fait quand même gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu des vivants et parce qu'il est le Dieu qui donne la vie. Et donc, puisqu'il est le Dieu qui donne la vie, le jour qui commémore la création, il veut donner la vie. Donc, on voit comment est-ce que Jésus, c'est la troisième fois là qu'il y a une guérison un jour de sabbat. Il est toujours dans la même dynamique. Elle se peaufine au fur et à mesure, parce qu'il est en train de la révéler. Il y a une forme de pédagogie, mais on est toujours dans le même esprit. Et Jésus, dans ce qu'il est en train de dire là, il s'appuie aussi sur la conception de son temps, dont on a déjà parlé, qui va considérer que la maladie est liée au péché. Et donc elle s'inscrit dans une dynamique mortifère. Donc lorsque Jésus guérit le malade, ben lui, il renverse cette dynamique mortifère pour en faire une dynamique de vie. Et c'est ça que les docteurs de la loi ne comprennent pas. Parce que ce que les docteurs de la loi voient en premier, c'est l'interdit qui est franchi. Alors que lorsque Jésus, lui, il guérit, ce qu'il voit, c'est qu'il fait avancer le règne de Dieu. Donc là, on a quand même deux visions de la société complètement différentes. Donc d'un côté, on a là, à ce moment-là, le chef des pharisiens et ceux qui sont présents, les docteurs de la loi, les pharisiens, qui, eux, considèrent qu'il y a un jour qui est consacré à Dieu, c'est le jour du sabbat, alors que Jésus est en train de dire qu'en réalité, ce qu'il faut consacrer, ce n'est pas simplement un jour où on ne ferait rien, où il y a des interdits, mais au contraire, c'est toute une vie qui est à consacrer. Et c'est pour ça que, un peu plus loin, on va avoir tout un discours sur la vie de l'apôtre, du disciple. Pas de l'apôtre, du disciple. Mais avant d'en arriver à ce chemin vers Jérusalem, Jésus va poursuivre son discours avec les versets 7 à 14 où il est question de choisir la bonne place. Et on voit bien que les paroles de Jésus sur le choix de la première ou de la dernière place, ça peut apparaître quand même de prime abord comme une forme d'habileté mondaine. Écoute, il vaut mieux qu'on dise du bien de toi, donc va à la dernière place, et puis comme ça, si on te met à la première, tout le monde pensera du bien de toi, si il te met pas à la première, écoute, tu n'auras pas la honte devant tout le monde, quoi. Donc on voit qu'il y a quand même une habileté mondaine, mais ça ne s'arrête pas là. Et on sait que ça ne s'arrête pas là, bon déjà parce que c'est Jésus bien sûr, mais parce qu'il y a un lien qui est très clair avec le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 25, versets 6 à 7, il est écrit: Ne cherche pas à briller devant le roi, ne te mets pas à la place des grands, mieux vaut que l'on te dise monte ici, plutôt que d'être rabaissé devant un prince. Et à partir du moment où on met en lien les versets du livre des Proverbes avec ce que Jésus vient de dire, les paroles de Jésus prennent une signification nouvelle. Parce que prendre la dernière place, finalement, ce n'est pas être motivé par la quête de la première place. C'est pas se dire je vais à la dernière, comme ça on va m'honorer en mettant à la première. J'espère qu'on mettra la première. Du coup, c'est plus ça l'idée. L'idée, c'est d'être dans une attitude d'humilité qui est l'humilité du serviteur par rapport à son roi. Il y a un des convives qui est présent qui, lui, a très bien compris ce que Jésus est en train de dire. Il a compris toute la dimension eschatologique. C'est au verset 15. Celui qui dit: Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. Donc lui, il a tout de suite compris. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, eh ben, ce que ça signifie, c'est qu'il ne faut pas faire partie avant tout d'une certaine caste ou d'une certaine classe sociale qui assure les premières places. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est être humble. Parce que c'est exactement ce que le Christ enseignait déjà au chapitre 9. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Et renoncer à soi-même, c'est faire preuve d'humilité. Qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et on voit comment est-ce que lorsque Jésus dit la question de la vie sauvée ou perdue, il y a à nouveau comment dire, ce renversement qui est présent entre les premières places seront pour les derniers et les dernières places pour ceux qui avaient choisi les premières places. On est dans le même ordre de renversement. Donc pour l'auditoire de Jésus, qui était composé du chef des pharisiens, et probablement des autres notables de la ville, puisqu'ils sont invités à un repas, donc on s'invite entre personnes de la même caste, il est en train de donner en fait une leçon d'humilité et d'abandon. Et dès qu'il a fini cet enseignement, qui n'était donc pas mondain, mais qui était à inscrire dans une dimension eschatologique, il va ajouter encore à cette dimension eschatologique avec la parabole des invités qui se dérobent. Les versets 15 à 24. Cette parabole, elle vient conclure l'épisode qu'on a lu, et elle a deux intrigues, cette parabole. D'abord, elle pose une question qui est: quelle est la raison de ce désistement de masse? Comment ça se fait que tout le monde se désiste? Et la deuxième question, c'est bah, comme personne ne vient au repas, est-ce que le repas va être perdu? Et donc on voit qu'il y a deux intrigues qui se nouent et auxquelles il va falloir répondre. Donc à la première question, qui est la raison du désistement, on peut répondre avec la première partie de la parabole. Les invités sont tous accaparés par des soucis qui sont des soucis matériels. Et pour reprendre, comme on l'avait déjà fait une fois auparavant, mais pour reprendre le vocabulaire de la parabole du semeur, puisqu'on a déjà dit que c'était une parabole qui est clé, l'invitation chez eux, elle est tombée dans les ronces. L'invitation a été étouffée par les soucis, par la richesse et par les plaisirs de la vie. J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. J'ai acheté 5 paires de bœufs, je pars les essayer. Je viens de me marier. Donc normalement, lorsque un hôte invite quelqu'un à sa table, il l'honore. Donc on voit comment est-ce que ici, l'hôte a voulu honorer toutes ces personnes-là. Mais ces personnes, elles refusent, et qui plus est, au dernier moment. Donc finalement, celles qui étaient censées être honorées sont celles qui sont en train d'humilier l'hôte. Ce n'est pas un simple refus. Le repas est prêt, tout était préparé et il n'y a personne. Et c'est là qu'on arrive justement à la deuxième question. Est-ce que le repas va être perdu pour autant? Et donc on le sait dans la parabole, non. Parce que l'hôte va envoyer chercher d'autres personnes. Il va envoyer chercher des pauvres, des estropiés, des aveugles et des boiteux. Et la salle va se remplir. Et l'hôte a tellement de joie à offrir son repas qu'il va même jusqu'à dire à ses serviteurs, ce verset 23, Faites entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie. Et donc, on voit comment est-ce que l'hôte, il n'a pas préparé ce repas uniquement pour inviter ceux de sa caste, mais parce qu'il aime que sa maison soit pleine. Donc, il y a une question de don derrière, de charité. Donc, maintenant, arrive une autre question qui est celle de l'interprétation, de la lecture que l'on pourrait faire de cette parabole. Et Je vais vous en proposer deux. Et c'est deux interprétations qui ne s'excluent pas l'une l'autre, d'ailleurs. La première, puisque Jésus est invité à manger chez un notable, on l'a dit, chez un chef des pharisiens, c'est écrit au verset 1, les premiers invités du repas sont probablement les docteurs de la loi et des personnes de la même classe sociale, donc des scribes, des grands prêtres, voilà. Un rang social élevé et donc aussi, avec tous ceux qu'on a cités, une connaissance approfondie de la parole de Dieu. On avait déjà parlé de la formation de toutes ces personnes-là qui ont une connaissance de la loi et de la parole. Et ils ont même pour mission de la transmettre. Sauf que ces personnes-là, elles ne reconnaissent pas, on l'a vu depuis le début du ministère public de Jésus, elles ne reconnaissent pas en Jésus le Messie. Et là, on repense au chapitre 11, verset 52, lorsque Jésus leur dit: quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Ça veut dire que les boiteux et les estropiés, qui sont invités dans un second temps, seraient ceux que les docteurs de la loi auraient amenés avec eux. La maison, elle a été faite pour être pleine. Et donc, il invite les docteurs de la loi, parce que c'est la même caste sociale, et eux-mêmes, comme ils sont censés transmettre la parole, ils auraient amené avec eux ceux à qui devait transmettre. C'est l'idée de la transmission. Mais comme la transmission ne s'est pas faite, eh bien l'hôte va chercher de lui-même directement ceux qui n'avaient pas reçu l'invitation. Ça signifie que l'invitation, c'est la parole. Et il y a ceux qui répondent à la parole et ceux qui n'y répondent pas. Ceux qui ont reçu la parole et qui la refusent, ceux qui ne l'avaient d'abord pas reçue, mais qui, la recevant dans un second temps, vont venir au repas. Et donc cette lecture-là, elle permet aussi justement de reprendre la question du semeur, parce que déjà dans la parabole du semeur, ce qui est semé, c'est la parole. Et la deuxième lecture possible, même si elle est un peu plus éloignée du texte, mais on a vu que depuis le début de son ministère public, Jésus, depuis son baptême, est dans une dynamique d'élargissement de la promesse qui est faite au peuple élu, à l'ensemble des nations. Et en ce sens-là, on peut lire le texte aussi. Les premiers invités, c'est ce peuple d'Israël, parce qu'il a reçu une invitation par les prophètes, et les prophètes ont déjà annoncé le festin du royaume. Mais parmi ceux-ci, il y a ceux qui ne reconnaissent pas en Jésus le Messie annoncé par les prophètes. Donc c'est ceux qui ont déjà reçu l'invitation, et quand on vient les voir en disant « ça y est, le repas est prêt », c'est-à-dire « ça y est, le règne de Dieu est là », ils reconnaissent pas Jésus. Et donc ils viennent pas, ils sont accaparés par autre chose. Mais Jésus envoie chercher toutes les nations, ceux qui avant n'avaient pas reçu les prophètes, mais qui pourtant vont suivre Jésus, c'est ceux qui vont rentrer dans la maison de l'hôte par la suite. Donc voilà deux lectures possibles, donc vous voyez, hein, elles ne s'excluent pas l'une l'autre. Après, elles prennent quand même appui sur deux choses différentes. La première interprétation s'appuie vraiment sur le texte en lui-même, tandis que la deuxième interprétation s'appuie sur une dynamique plus générale.